Sud Radio 10h midi, débat.
Les débats aujourd'hui, on est ensemble pour commenter l'actualité. Il y a de l'actualité politique en particulier aujourd'hui avec Dominique de Montvallon. Bonjour Dominique,
bonjour.
Heureuse de vous recevoir, de vous revoir. Journaliste politique, Arnaud Benedetti, également très heureuse
bonjour.
De vous revoir. Professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique et rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Je vous conseille la lecture du livre de Lucas Jakubovic parce que ça va vous intéresser.
Oui, je suis en train de le regarder.
Mehdi Ouraoui est avec nous. Mehdi, je devrais vous appeler Jean-Claude, non?
Eh ben, non, mais alors, surtout, ce que je comprends pas chez Zemmour, c'est pourquoi il veut changer les prénoms et pas les noms.
Bah oui.
Il devrait s'appeler Éric Dupont lui-même.
Bah oui, ça, c'est très juste comme réflexion.
Jean-Claude.
Très bizarre.
Donc, je vais vous appeler Jean-Claude Ouraoui maintenant.
Non, non, merci Valérie. Je peux vous appeler Fatima, ce qui est aussi un joli prénom.
C'était une boutade.
Sophie
de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Et oui, pour ceux qui n'auraient pas suivi, Éric Zemmour, ce week-end, a persisté et signé dans le fait qu'il fallait que les gens d'origine étrangère, les immigrés ou les anciens, enfin même ceux qui sont français appellent leurs enfants avec des prénoms français.
Donc voilà. Kevin, c'est terminé.
Pardon ?
Kevin, c'est terminé.
Non, Kevin, c'est terminé. Oui, oui, absolument.
Jennifer.
Voilà. Et lui, il a dit qu'il légiférerait sur le sujet pour obliger.
Ça, c'est grave. Avec un type de
français.
Réflexion, on se casse
Allez,
complètement.
On va parler donc de la candidature d'Anne Hidalgo. Candidate, a-t-elle ses chances pour 2022 ? Alors, avec un péché originel quand même, qui est celui de dire il y a un an, je ne serai jamais candidate.
Oui.
Vous pouvez archiver. Ouais. Elle démarre quand même avec un premier mensonge, donc c'est pas terrible. Zemmour, déprogrammé de CNews, ça vous fait beaucoup réagir ce matin. Sur Twitter, sur les réseaux sociaux, futur candidat à la présidentielle. Et puis Benalla, le retour, jugé aujourd'hui, l'épine dans le pied, le boulet de Macron peut-être. On en parlera avec vous. Alors commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Sophie, commençons avec quelque chose de léger, d'aérien.
D'aérien, et qui, oui, c'est le cas de le dire, et qui va dans le sens du livre dont vous avez parlé, qui a l'air formidable. Tous les matins, il y a Dominique Cruciani, qui est un pilote du LM chevronné, et qui va promener ses oies pendant 40 minutes. Et là, il l'a fait au-dessus du lac d'Annecy. Il a donc apprivoisé des oies. Il y a un bouquin formidable de Conrad Lorenz qui parlait des oies. Oui, formidable.
Ouais,
donc,
génial.
Il a apprivoisé des oies qui volent de façon extraordinaire en escadron derrière l'ULM. Et en plus, il fait ça pour montrer à quel point les oiseaux migrateurs, il faut préserver, etc. Et c'est tellement poétique, tellement beau. On voit les oies qui viennent l'embrasser quand il atterrit. Et tout d'un coup, je me suis dit, c'est merveilleux, et si on parlait d'écologie avec ce type d'exemple et d'illustration, ce serait merveilleux.
Bon, coup de cœur pour donc ces oies. On est très, très, très animaux ce matin. Arnaud Benedetti, c'est un coup de cœur.
Ah oui, c'est un coup de cœur. Alors j'ai hésité entre un coup de gueule et un coup de cœur.
Bon,
j'ai hésité le coup de gueule. Le coup de gueule, c'est l'emballage et la poubellisation de l'Arc de Triomphe, qui en dit long quand même sur la façon. Psychanalytiquement, c'est très intéressant. Hein. Ça veut dire qu'on met à la poubelle l'histoire. Et je rappelle quand même que l'Arc de Triomphe, c'est pas seulement le monument commencé à être édifié sous Napoléon, terminé sous Louis-Philippe. C'est aussi quand même la tombe du soldat inconnu également. Il faut quand même aussi s'en souvenir. Enfin, je trouve, chacun. Après,
mais
je dirais à une vision très subjective, mais je trouve que le jour où Madame Hidalgo, on en parlera tout à l'heure, déclare sa candidature, je dirais que il y ait cet emballage de l'Arc de Triomphe, je trouve qu'il y a quelque chose à la fois qui dit quelque chose sur le fond de la candidature d'Anne Hidalgo, mais qui est assez paradoxal.
Oh. Je partage peu cette opinion, sauf que la dernière fois qu'on a vu l'Arc de Triomphe,
je partage mon opinion, c'est un avis. Ouais.
Voilà. La dernière fois qu'on a vu l'Arc de Triomphe dans le monde entier, c'est quand il était tagué assassiné. Et mutilé par les gilets jaunes. Et donc je me disais que c'était peut-être une autre façon, mais je suis assez d'accord avec vous, mais c'était peut-être une autre façon de montrer l'Arc de Triomphe.
Alors juste, je vais
laisser finir. On va faire
vous ferez votre coup de cœur, mais le coup de gueule, alors sur l'Arc de Triomphe.
Moi, c'est pas un coup de gueule, c'est cacher cet Arc de Triomphe que je ne saurais voir. Je pense que ça relève d'une analyse non pas politique, mais psychanalytique, ce que vous avez commencé à faire.
Oui, alors Christo.
Bien sûr.
Christo,
c'est
il est mort.
Il est mort, c'est sa signature.
C'est pas grave, c'est
il avait fait le Pont Neuf, il avait fait plein de choses. Donc, je ne sais pas. Mehdi.
Bon, je trouve que l'opération en elle-même est surtout une une opération plus commerciale qu'artistique.
Oui, parce mais que l'avantage, c'est que c'est de l'argent privé.
Je vais finir, Sophie. Ce sont les grosses opérations de cristaux qui sont des opérations très chères, qui sont des opérations qui visent surtout à faire une forme de communication, de marketing, etc. Et en plus, honnêtement, une œuvre qui serait une espèce d'œuvre posthume comme ça, qui n'est pas de très bon goût et pas très intéressant. Là où je ne rejoins pas du tout Arnaud et où je trouve que quand même, il ne faut pas aller trop loin, c'est que... qu'il y ait un problème de calendrier, qu'il y ait un télescopage dans le calendrier entre la candidature d'Hidalgo et cette espèce de truc un peu de mauvais goût. Ça, c'est une réalité. Je ne suis pas sûr qu'elle ait bien choisi vraiment ce moment-là. Ouais. Après, attention de ne pas faire quand même de la candidature de la maire de Paris une espèce de candidature anti-nationale, anti-histoire française. Je ne crois pas que ça aille jusque-là. Je crois que c'est juste, honnêtement, je crois que c'est surtout une grosse bévue de communication plus qu'autre chose.
Disons que ça tombe mal.
En tout cas, ça tombe mal.
Votre coup de cœur.
Alors, le coup de cœur, c'est une initiative des éditions du Cerf. Vous savez que Georges Bernanos tombe cette année dans le domaine public et il réédite « Une vie de Saint-Dominique ». Écrite par Georges Bernanos. C'est un texte magnifique, très court, avec cette écriture incandescente, fiévreuse de Bernanos. Et ce que j'ai appris d'ailleurs, en lisant ce livre, c'est que, dans la préface notamment, c'est que Bernanos considérait que c'était son meilleur texte, ce texte très court. Donc c'est un très très beau texte, intéressant bien évidemment pour ne serait-ce que s'acculturer à ce que fut le parcours de Dominique de Guzman, fondateur de l'ordre des Dominicains, alors qu'il était un ordre quand même à la fois très intellectuel mais qui a joué un rôle extrêmement important,
un
rôle très important dans l'Inquisition, hein, il faut s'en souvenir. Mais en tout cas, je recommande ce petit texte qui tombe, j'allais dire, à pic.
Donc Saint-Dominique de Georges Bernanos, qui est réédité aux éditions du Cerf. Allez, on se retrouve dans un instant pour continuer notre tour de table de l'actualité. On va revenir sur ce qui s'est passé à Val-de-Reuil, à la fête de l'UMA. Puis un mot sur la candidate Sandrine Rousseau. Tous les jours, on a des choses à dire sur elle. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Nous débattons et on est déjà très énervés. Avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Dominique de Montvallon, journaliste politique, Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et Mehdi Ouraoui est en Zoom avec nous depuis le Pays Basque. Vous êtes essayiste, spécialiste du discours politique. On va revenir sur Zemmour, Éric Zemmour, donc déprogrammé par CNews, contraint et forcé, vu les menaces faites par le CSA, d'obliger à comptabiliser son temps de parole. Donc CNews n'avait pas vraiment le choix. Anne Hidalgo, candidate pour 2022, qu'en pensez-vous? 0826-300-300, vous pouvez réagir. Et puis Alexandre Benalla, qui comparait aujourd'hui. Quel impact pour Emmanuel Macron? On y revient dans un instant. On continue notre tour de table. Mehdi Ouraoui, c'est un coup de cœur.
Ah oui, je pense que ça va contribuer à votre bonne humeur ce matin. C'est que mon coup de cœur, c'est et en même temps un petit coup de tristesse.
Ben oui.
C'est le retrait de Benoît Hamon de la vie politique annoncé.
Ah, on est malheureux, hein. Ben oui, mais c'était voilà, le parti, j'allais dire le pari de Mehdi Ouraoui, génération. Donc ce parti n'existe plus.
C'était effectivement le parti dont j'étais porte-parole, qui a sa vie autonome avec des gens qui l'animent. Alors en l'occurrence, moi j'en fais plus partie. Benoît Hamon est lui-même retiré de la vie politique. Donc c'était une aventure qui était intéressante parce que c'est une aventure très stimulante intellectuellement, un peu comme le PSU de Rocard à l'époque, avec beaucoup d'idées très nouvelles. Et d'ailleurs, c'est un peu alors Benoît Hamon a commencé la vie politique d'ailleurs en étant un jeune rocardien. Et il y a quand même une trajectoire qui est assez intéressante. C'est qu'il a contribué quand même, mine de rien. Alors il est pas mort, il va vers d'autres horizons, il va vers un autre océan qui est une association qui s'appelle Singa, qui est une très belle association qui mise sur la formation des migrants pour les insérer dans la société et puis pour apporter le maximum de richesses intellectuelles, culturelles et économiques d'ailleurs au pays. Donc il va vers cet horizon-là, donc un horizon d'une ONG. Mais le bonhomme a ses défauts, comme tous les responsables politiques. Et évidemment, on peut lui reprocher ce qu'on veut en fonction de ses propres convictions politiques. Mais force est de constater quand même que dans les années qui viennent de s'écouler, à gauche comme à droite, ne sont pas très nombreux les responsables politiques qui ont bousculé le jeu intellectuel et qui ont apporté des idées aussi fortes que le revenu universel qui s'est quand même imposé ces dernières années, que la taxe robot qui continuer à discuter dans les GAFAM, quand on est obligé de parler de la taxation des GAFAM, etc. Sur les perturbateurs endocriniens, force est de constater qu'il n'avait pas forcément tort non plus.
C'est pas, voilà. Vous êtes en train de faire son éloge
funèbre. C'est le cas.
Nul n'est prophète en son pays. Moi, je dis pas que.
Mais il n'a pas réussi à s'imposer ni à imposer.
C'est un peu mon coup de gueule, Valérie, de ce matin. C'est que, quand même, qu'est-ce que la gauche est stupide? Qu'est-ce que la gauche...
Non, alors là où je vous rejoins, c'est que tout ce qui
serait... Je finis juste sur ce point, c'est que le retrait de Benoît Hamon, qu'on le veuille ou non, est un terrible aveu pour l'ensemble de la gauche, comme le silence de Taubira à certains égards, puisque ce sont les plus hauts dans toutes les enquêtes d'opinion depuis des années et des années. C'est tout à fait terrifiant de voir que chaque jour, et d'ailleurs bientôt il faudra des calendriers à 468 jours, chaque jour il y a une nouvelle candidature à gauche, alors que la gauche est dans un état intellectuel.
Les 6% qu'a fait Benoît Hamon montrent qu'il n'y avait quand même pas...
Il y a juste une chose qu'on pourrait dire que
pour ce qu'il proposait.
Oui, mais juste une chose, du moment qu'il y a déjà un regard un peu d'intellectuel à gauche, moi je suis contente, parce qu'il faut une gauche intelligente et solide. Là, c'est un désert intellectuel. Et quand j'entends effectivement que Benoît Hamon a essayé un peu de réfléchir à des sujets, je regrette pas vraiment qu'il y ait un parti qui disparaisse, mais je dois dire que j'ai vraiment envie que les responsables politiques de gauche élèvent un peu le débat.
On va en reparler peut-être avec Anne Hidalgo.
Génération ne disparaît pas. C'est Benoît
Hamon. Génération ne disparaît pas.
Le problème de Benoît Hamon, je suis assez d'accord, il avait au moins, je veux dire, l'avantage. Bon, je ne partageais pas ce qu'il disait, mais c'est vrai qu'il avait une offre politique qui était intellectuellement structurée. Une réalité. Il essayait quand même de réfléchir à un certain nombre de problèmes. Le problème de Benoît Hamon aussi, c'est que. Il était quand même extrêmement cannibalisé aussi par les Insoumis, parce que quelle est la différence aujourd'hui entre Benoît Hamon et les Insoumis, mis à part un style? C'est quand même, disons que la ligne de partage était assez ténue.
Assez fine, assez ténue. Dominique.
Je ne suis pas sûr que Benoît Hamon ait apporté à la vie politique autant d'idées que vous le dites, mais après tout, là n'est pas le débat. Je voudrais simplement rappeler dans quelles conditions il s'est auto-exclu de la vie politique. Et aujourd'hui, il parachève en quittant la vie politique pour la vie associative. Il était à l'époque, il l'a été fugitivement, ministre de l'Éducation nationale. Ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'il faisait équipe avec un certain, il est dans l'actualité, un certain Arnaud Montebourg. Et les deux hommes grisés, à la fête de la Rose en Saône-et-Loire, fête annuelle, se sont mis à je ne dis pas à banqueter, mais en tout cas, après tout, ça n'a rien de dramatique, mais à lever leur verre.
Oui, la cuvée du redressement.
À lever leur verre. Et de telle façon que François Hollande leur a demandé de prendre la porte. Il a fallu qu'ils fassent fort.
On va pas faire l'heure sur Benoît Hamon, on a entendu.
Rester un peu au niveau des idées, c'est plus intéressant.
Voilà, coup de cœur rapidement, Dominique.
Ah oui, alors ça vient comme des cheveux sur la soupe, pardonnez-moi, mais je l'assume.
Non, mais c'est le principe de J'écoutais ce matin
matin Bruno Le Maire sur LCI. Je fais coup de cœur, je préfère dire coup de chapeau. Coup de cœur, c'est pas le mot, mais j'aime un ministre de l'économie qui décidément est compris quand il parle et tient au fond avec cohérence une politique qui peut être contestée surtout quand on est révolutionnaire, mais qui a ses logiques et jusqu'à un certain point sa force.
Bon, allez, trois petits sujets, des sujets graves. Ce week-end, la mairie a été prise d'assaut à Val-de-Reuil par une trentaine de personnes. Une élue a été bousculée. C'est la Ligue de Défense Noire Africaine qui a appelé un rassemblement. Il y avait eu une rixe entre deux enfants. Il faut quand même voir que c'était un affrontement entre Kurdes et des enfants africains de 10 ans. Il y a eu une rixe, il y a eu des arrestations. Et suite à ça, alors cette Ligue de défense noire africaine, il y a un moment, on se demande jusqu'à quand ils vont continuer et pourquoi cette ligue n'est pas dissoute. Son leader a été condamné à de nombreuses reprises pour abus de confiance, pour de nombreuses infractions. Et j'ai trouvé ces images particulièrement choquantes. Je ne sais pas si vous les avez vues.
Oui, j'ai vu.
Oui, j'ai vu.
Moi, je les ai trouvées choquantes, j'ai trouvé
très bien
même,
maire.
Je dirais, insupportables.
Ouais, ouais.
Ça fait partie de ces petits signes qui existent, petits signes si on peut dire, de la vie publique que certains ont tendance à minimiser. Ça se passait là, c'était un jour, il y a peut-être eu un dérapage. Pas du tout. Ce sont des signes qui en disent long sur des dérapages qui peuvent demain prendre plus d'ampleur. Ça soulève le cœur.
Ouais. Et puis surtout, c'est la non-maîtrise, encore une fois, la mairie, la République attaquée. Et les Français se rendent bien compte. Il y a un film extraordinaire à voir qui a été primé, BAC.
Ouais. Je ne lis pas. Je fais mon travail, donc je lis Libération, je survole Libération. Alors ce matin, pour parler d'Audrey Diwan, qui a gagné un Lion d'Or à Venise, on explique que c'est la co-auteure de l'infâme BAC Nord. Libération écrit l'infâme BAC Nord.
Il paraît que c'est exceptionnel, ouais. De justesse, ouais. De talent.
Bref,
de...
pardon, je vous ai interrompu.
Ouais, ouais, mais c'est bien parce que effectivement, c'est un film
Libération
qu'il faut voir
dans le détail, si je puis dire. Oui. Mais c'est très, là aussi, c'est très révélateur.
On va y revenir avec Zemmour,
Non, non, mais vous avez tout à fait. Je l'avais pas lu, je l'avais pas vu.
Moi non plus.
Vous avez tout à fait raison. C'est énorme, c'est énorme.
Énorme.
Et ça traduit quand même, à propos de cet infâme et de la vocation de ce film, les contradictions actuelles de l'extrême-gauche, de l'ultra-gauche, qui se cherchent. Ils ne sont pas tous de cet avis-là, mais on peut craindre que les infâmes prennent le dessus.
Oui, puis les gens, je veux dire, cette dette, c'est stabilisant, parce que quand même, quand il y a un titre comme ça, que vous le voyez dans un kiosque, etc., ça sème un doute sur un film qui est en plus un chef-d'œuvre et qui est factuel.
On dévie.
Bah non, c'est les banlieues qui ne sont pas maîtrisées.
Pardon ? Oui, c'est la liberté de la presse, totalement. Je trouve que le mot infâme...
C'est pas la presse.
C'est la liberté, vous avez raison. Mais la Ligue de défense noire africaine, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand on va tolérer ces invectives ? Le maire a été enfariné, la mairie envahie, cet élu bousculé.
Ce sont des images lamentables. On n'est pas procédé déjà, en tout cas, à la demande de dissolution de cette ligue.
Ça, mais on ne dissout jamais rien en France.
Ah bah si, on a dissout Génération Identitaire.
On a vu ce que ça donne, le mal, oui.
Pu le faire. Slogan anti-police à la fête de l'UMA, au concert de Soso Manès, tout le monde déteste la police. Mehdi, là aussi, liberté d'expression.
Bon, honnêtement, assez affligeant. Après, c'est un concert avec des... Alors, pour le coup, Dominique de Montvalon parlait de Montebourg et Benoît Hamon comme des gens grisés dans une fête. Quand même des milliers de gamins qui ont vaguement fêté la chose avec des litres et des litres de bière et un rappeur un peu débile et honnêtement pas très doué. Qui cherche à avoir un peu de notoriété. Je suis pas sûr qu'il faille vraiment qu'on lui accorde cet honneur de parler de lui, parce que ça n'a absolument aucun intérêt.
Cette scène est quand même préoccupante, elle a été reprise
par les médias encore une fois.
Je ne vais même pas lui faire l'honneur de le comparer à des chansons comme Le Gorille ou...
Vous le faites d'une certaine manière, parce que c'est l'argument qui a été donné par Adrien Quatennens en disant imagine-t-on Brassens censuré à la fête de l'UMA.
Valérie, oui. Dans Le Gorille de Brassens, il arrive des choses aux juges qui sont un peu osées. Le gorille s'occupe assez bien du juge.
Oui. Bon, le gorille et les Pandores, mais c'était une autre classe. Hein.
Oui, mais d'accord, mais Dominique de Montvalon, on peut aussi vivre un peu dans son époque. On peut essayer de regarder ce qui se passe.
Non, Brassens
n'a pas d'époque.
Je crois juste que simplement tout ça n'a aucun intérêt et que ce type est vraiment sans intérêt.
À la fête de l'UMA sur la scène centrale. Bon.
Après, ce qui doit nous interpeller, c'est quand même le rapport d'une partie de la jeunesse, d'abord à la police, plus précisément, et puis plus généralement à l'autorité. C'est-à-dire que il y a quand même toute une partie de la jeunesse aujourd'hui. Là, on parlait de Val de Reuil. Val de Reuil, c'est quoi ? C'est deux gamins qui se bagarrent, où tout ça dégénère en affrontements communautaires quasiment
entre
ratio.
Les pères d'abord, oui.
Non, mais qui dégénère. Alors, les pères doivent pas être très âgés pour avoir des gamins de cet âge-là, donc qui dégénère en affrontements communautaires quasiment raciaux entre des Kurdes, des gens d'origine africaine, l'élu qui a été bousculé, la pauvre, par ailleurs, est d'origine maghrébine, je ne sais pas si c'est mentionné, mais enfin, pardon, qu'on ne dise pas quand même que c'est toujours les mêmes. Hein, bon. Et donc on a quand même un sujet plus général dans la société, de rapport à l'autorité, de rapport aux insignes de l'autorité. On n'aurait jamais pensé... Il y a une trentaine d'années, avoir une mairie massacrée en plein mariage par des gens parce que leurs enfants se sont bousculés. Voilà.
Absolument.
Donc, et donc, je crois que tout ça est quand même du même acabit. Bon, voilà.
En tout cas,
Parce qu'on rappelle encore une fois que le président, moi je suis focus sur la Ligue de défense non africaine, il a quand même accusé les militaires français, un auditeur me le rappelle, d'être des terroristes. Donc c'est quand même...
Ses propos et ses actes sont scandaleux. Mais je salue le candidat communiste, rappelez-moi son nom, c'est pas une
plaisanterie, Fabien Roussel,
qui a désavoué complètement l'attitude
de... Oui, d'autant plus qu'il veut rétablir la sécurité dans le programme.
Oui, mais lui, c'est un candidat communiste, républicain, et qui retrouve les fondamentaux du PC sous un bon angle, disons.
Allez, on se retrouve dans un instant, on va parler d'Éric Zemmour. Vous êtes nombreux à réagir sur le fait qu'il ne puisse plus s'exprimer sur l'antenne de CNews. CNews contraint d'arrêter son émission, sinon c'était très compliqué pour eux en termes de calcul de temps de parole. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Avec vous jusqu'à midi, on va parler d'Anne Hidalgo qui donc a déclaré qu'elle était candidate à la présidence de la République. On est ensemble avec Sophie de Menton, Dominique de Montvallon, Arnaud Benedetti et Mehdi Ouraoui. Alors un peu avant 9h ce matin, la chaîne d'information CNews a publié, je savonne ce matin, un communiqué annonçant dès ce soir l'arrêt de l'émission avec Éric Zemmour, qui était donc diffusée tous les soirs à 19h. Vous vous souvenez que la semaine dernière, le CSA avait demandé à ce que la chaîne décompte, les émissions qui recevraient Éric Zemmour décompte son temps de parole. La chaîne donc a annoncé cette décision ce matin, et Éric Zemmour qui était sur CNews à l'occasion de la parution de son livre « La France n'a pas dit son dernier mot », s'est exprimé en disant qu'il était très triste, mais qu'il continuerait le combat. Je ne sais pas si on a le son, je n'ai pas prévenu Lucille, je crois qu'on l'avait dans le zapping, mais donc il va continuer effectivement ses fans ce matin renvoyé sur sa chaîne YouTube a rappelé que Éric Zemmour cartonne en termes d'audience. Il fait près d'un million de téléspectateurs, entre 800 et 900 000 téléspectateurs tous les soirs. Censure, nous disent certains. Et c'est vrai que la semaine dernière, on a entendu et Françoise Laborde et Christine Kelly s'exprimer, anciennes membres du CSA, et dire que tant qu'il n'est pas candidat...
Ah oui.
Donc c'est très compliqué, parce qu'en même temps, c'est ce que je disais la semaine dernière, c'est un peu Canada Dry. Il a tout du candidat, mais il n'est pas déclaré.
Et d'ailleurs, à mon avis, il n'ira pas jusqu'au bout.
Ouais. Écoutez ce que disait Éric Zemmour ce matin.
Manifestement, vous ne connaissez pas bien les chiffres.
Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'était sur les audiences, mais c'est pas grave. Oui, Arnaud Benedetti.
C'est vrai que c'était ambigu, parce qu'en même temps, il donne le sentiment, tous les jours un peu plus, de se préparer à une annonce de candidature. Mais moi, je partage ce qui a été dit auparavant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'est pas déclaré, à partir du moment où il n'est pas candidat, je ne vois pas les raisons juridiques qui l'empêcheraient de pouvoir poursuivre cette émission, son émission, et les raisons qui empêcheraient CNews de pouvoir également poursuivre cette émission avec lui. Bon, ça, je crois que c'est le point le plus important. Alors après, moi je pense qu'aussi, il faut l'interpréter... contrairement peut-être à ce que dit Sophie, comme aussi si lui, d'une certaine manière, se range à cette décision, c'est que dans son fort intérieur, il a peut-être pris sa décision et qu'il sera candidat. Je crois que c'est quand même une hypothèse aujourd'hui qui me paraît assez probable au regard de toute la dynamique, en tout cas, qui se met en place autour de lui. Le problème pour Zemmour, ensuite, pour être candidat, c'est d'avoir les moyens de sa campagne, et également la question des signatures. Moi, je ne suis pas trop inquiet pour les signatures, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce qu'Éric Zemmour soit candidat, et vous savez comment ça se passe, Dominique, les pressions amicales sur un certain nombre d'élus peuvent s'exercer
parfois,
et faire en sorte...
Il n'y a pas besoin de pression.
Et parfois, il n'y a même pas besoin de pression pour faire en sorte qu'il soit candidat.
Mais à partir du moment où il n'a plus son émission... il aurait intérêt à se déclarer s'il compte vraiment y aller.
Oui, je pense que cette décision, dans l'hypothèse où il est candidat, est une décision qui lui est profitable. Parce que, tout simplement, il peut exciper le fait qu'aujourd'hui, on essaye de censurer, ou en tout cas d'écarter une voix qu'il considère lui-même comme une voix libre.
Ouais.
Donc ça le renforce, si vous voulez, dans cette posture anti-système qui est la sienne. Parce que vraiment, s'il y a un candidat aujourd'hui qui veut incarner cette dimension anti-système, bien plus que Marine Le Pen, en l'occurrence, qui s'est considérablement recentrée, au moins dans sa sémantique, c'est bien Éric Zemmour.
Oui, mais on peut interpréter. Voilà. Alors je suis d'accord, c'est tout à fait interprétable dans ce sens.
Point sensible.
Alors, je finis juste. Oui, on peut interpréter dans l'autre sens. On peut aussi imaginer qu'ils disent, bah, puisque c'est ça, je reste parce que j'ai une parole et je reste sur ces news et je renonce. Là, ça fait très mal parce qu'on a l'impression qu'une censure s'est exercée de façon malhabile et anormale. C'est compliqué. Donc,
il y a un point sur lequel je veux revenir, c'est la façon dont le CSA a mis en garde, a mis la pression sur CNews en disant ouais. « Ah, mais Éric Zemmour est un acteur du débat public national. » Moi, je voudrais savoir comment CSA définit cette notion d'acteur du débat public national. Qui l'est et qui ne l'est pas.
Non, mais on n'est pas des perdreaux de l'année non plus, Arnaud. Il faut, à un moment donné, il faut dire les choses.
À un moment donné, il faut que ça soit fondé juridiquement, sans être...
Non. Ceci est une opération de communication habilement menée par Éric Zemmour pour...
Du complotisme.
Attendez, Sophie, soit on peut se parler, soit on peut. Attendez, soit on peut se parler, soit on peut pas se parler. Voilà, bon.
Donc, moi,
Éric Zemmour se victimise. En réalité, il déclare sa candidature, comme il a annoncé à ses employeurs qu'il serait candidat, comme ses amis passent leur temps à dire en off ou en on aux journalistes qu'il va être candidat, comme une association de financement de sa candidature a été enregistrée pour être candidat. Donc, on sait qu'il y a le désir, alors peut-être pas la capacité, mais en tout cas, le désir d'être candidat. Et donc, parce qu'il y avait une possibilité toute simple, c'était de dire, mais moi, je ne suis pas candidat, et donc, je continue ma chronique.
Alors, il a aussi le droit de dire qu'il ne sait pas encore s'il y va.
Éric Zemmour découvre une chose, c'est la différence entre les amateurs et les professionnels. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'était un gentil petit commentateur qui faisait de l'audience et qui avait sa petite place dans les dîners parisiens en étant un commentateur de la vie politique. Et là, il vient de découvrir ce que c'était qu'être dans le cirque. C'est-à-dire qu'il vient de découvrir ce que c'était que ne pas pouvoir bénéficier des largesses d'un milliardaire qui possède une chaîne de télévision et qui vous met tous les jours à l'antenne. C'est-à-dire que là, ça devient un petit homme politique comme tout le monde. Et donc, le petit homme politique, il va falloir qu'il ait les petites audiences des petits hommes politiques.
Et c'est pas très gentil pour les hommes politiques, mais partage.
C'est là que j'en viens à mon point principal. C'est que je vais même aller plus loin. C'est que je pense qu'Éric Zemmour est un imbécile. Je vais vous dire pourquoi.
Vous n'êtes pas obligé d'insulter non plus.
Non, mais je vais vous dire pourquoi. Bah, ou alors je vais prendre une autre formule qui vous parlera davantage. C'est que je pense qu'Éric Zemmour, ça fait quelques semaines et même quelques mois et peut-être même quelques années qu'il est invité à un dîner de cons par Marine Le Pen. C'est-à-dire que Marine Le Pen est très intelligente, elle a très bien compris qu'il l'a. Et d'ailleurs, on a vu la remarque d'Arnaud.
C'est pas si évident que ça.
Je finis juste quand même ma démonstration. Arnaud vient de le dire. Arnaud lui-même vient de dire à Marine Le Pen qui recentre son discours, etc. Pas du tout. Marine Le Pen tient le même discours depuis de nombreuses années, sauf qu'elle a désormais à sa droite un type complètement hystérique qui passe son temps à insulter tout le monde sur les plateaux,
Mais il insulte.
Ça arrive souvent quand même. Pour être moi-même assez arrogant, je sais qu'Éric Zemmour est quand même pas la modestie
incarnée.
Il est quand même très souvent hystérique sur les plateaux, beaucoup plus énervé qu'elle. Il a l'air beaucoup plus énervé qu'elle. Elle a l'air beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Lui est de l'avis général sur des positions qui sont des positions ultra extrémistes qui la font passer pour une gentille modérée. Et même, je pousse le raisonnement encore un peu plus loin, ce qui est terrible, c'est qu'en plus, même y compris s'il devait être candidat jusqu'au bout, les derniers sondages et les dernières enquêtes d'opinion montrent qu'il trempe aussi à droite. Et donc, à certains égards, ce n'est même pas un problème électoral pour elle, ce n'est même pas un problème de lui faire perdre. Contre quelques points qui lui feraient perdre au premier tour, il lui donne une respectabilité qui lui permet de casser le plafond de verre, qui est exactement ce qui a toujours manqué à Jean-Marie Le Pen.
On va y revenir. On est obligé de marquer une pause, Mehdi Ouraoui, on va marquer une pause et on revient avec Dominique de Montvallon et son analyse. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi. Débat.
Et nous parlons d'Éric Zemmour qui arrête l'antenne contraint et forcé de son émission sur CNews, émission qui fonctionnait, mais le CSA, vous le savez, la semaine dernière, a demandé à la chaîne de comptabiliser son temps de parole. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi la chaîne ne cherche pas un recours juridique, parce que visiblement, c'est fondé sur pas grand-chose. Il y a des gens qui disent de nos auditeurs, mais à ce moment-là, pourquoi on ne fait pas pareil avec tous les chroniqueurs. Il y avait Michel Drucker qui était interrogé sur autre chose. choses et qui disait qu'il soutenait Emmanuel Macron. Dans ce cas-là, on comptabilise tous les gens qui s'expriment. Alors Mehdi Ourahoui avait une théorie sur laquelle vous vouliez réagir, Dominique de Montvallon, sur le fait qu'il est l'udio utile de Marine Le Pen, d'une certaine manière, pour normaliser. Pardon. Il y a beaucoup de gens qui le soutiennent. Genre dans les sondages, il monte, Mehdi Ourahoui.
Je ne veux pas faire l'esprit fort, mais je crois qu'il faudrait se...
Oui, non, mais je parle à Mehdi. Non, je parle à... J'interpellais Mehdi Ourahoui.
Ah oui, bon, d'accord.
Alors, allez-y, Dominique. Sur l'analyse politique.
Non, une analyse, oui. Un sentiment. D'abord, à propos du fait qu'il injurie tout le monde.
Ça, c'est ce que dit Méry.
Oui,
c'est
d'accord.
C'est ce que dit Mehdi, pardon.
Bah, écoutez...
On m'a rebaptisé trois fois aujourd'hui.
Mais attendez, c'est ce que vous avez dit. Et de votre point de vue, ça me paraît totalement... gravement inexact et totalement contre-productif. La dernière fois qu'il est passé à la télévision, c'est vendredi.
Samedi.
Il a affronté, je le dis gentiment, mais enfin bon, il a affronté un tribunal révolutionnaire composé de Laurent Ruquier, Léa Salamé, et le troisième, c'est notre confrère qui va m'en vouloir, mais de LCI qui était là, etc. Ils l'ont pas lâché une semaine, ils l'ont sommé de s'expliquer. Au passage, insulte, je veux dire, tout le monde perd ses nerfs à propos d'Éric Zemmour. Deuxièmement, est-ce qu'Éric Zemmour sera candidat? Je pense que lui-même ne le sait pas aujourd'hui. Mais il en réunit les conditions. Je pense que c'est une grave erreur, comme dans toute analyse politique, de zapper l'idée qu'il puisse ne pas l'être. Ouais. Il ne sera peut-être pas, ou il ne pourra pas l'être, mais on n'en est pas là. Et sur le fond, il est... pourquoi agace-t-il? Pourquoi trouble-t-il le jeu? Pourquoi chacun, dans des registres fort variés, parfois contradictoires, perd un peu ses nerfs à propos de Zemmour? C'est parce que il trouble complètement un jeu. On disait, c'est pas possible d'avoir à nouveau Macron contre Le Pen, etc. Mais maintenant qu'on a autre chose qui surgit, c'est-à-dire un électron libre qui ira jusqu'au bout, qui n'ira pas, ça trouble tellement d'intérêt, tellement d'analyses, que tout le monde en est aujourd'hui complètement perdu.
Alors, on a des auditeurs qui veulent réagir. Pierre est en ligne avec nous. Bonjour, Pierre.
Écoutez, je crois que la chaîne connaît certainement ses intentions et c'est pour ça qu'elle ne va pas lancer de procédure. Pour ce qui est de Zemmour, je crois que la qualité de Zemmour, c'est qu'il travaille ses dossiers et maîtrise l'histoire de France. Mais c'est dès vrai. Qu'il aborde l'histoire avec ses propres convictions, il interprète l'histoire en omettant les éléments qui le dérangent. Et vous voyez, je ne prendrai qu'un seul exemple, l'histoire des prénoms, puisque ça a été évoqué ce matin. Au lieu d'expliquer le problème que la loi qui a été votée par le gouvernement Chirac ne limite plus la liste des prénoms, puisque c'est ce qui s'était passé en 97 à peu près, il préfère dire que, au fond, ce sont les prénoms des musulmans qui dérangent. Vous voyez, alors que ça serait assez simple de dire, revenons sur cette loi plutôt que de stigmatiser une population et mettons un terme à cette loi de 97 qui ne limite plus les prénoms. Et vous savez, pour ce qui est de ça, moi je suis heureux qu'il ne participe plus, qu'il ne soit plus invité, parce qu'en tant que représentant et porte-parole de Jean Lassalle, puisque je suis déjà intervenu chez vous, je sais que le mouvement de Jean Lassalle ne pourra jamais récupérer le temps de parole qu'a eu Éric Zemmour. Et donc du coup, bien entendu, on passe sur des sujets qui sont extrêmement intéressants. Moi je travaille en ce moment justement sur une répartition de la richesse en France, une autre répartition, qui est un sujet beaucoup plus intéressant que le sujet des prénoms que stigmatisent aujourd'hui les chaînes de télévision.
Oui. Merci Pierre. On a Jacques également en ligne qui voulait réagir. Bonjour Jacques.
Oui, bonjour. Valérie, bonjour à vos invités. Non, je voudrais m'adresser prioritairement au crétin qui vient de traiter Éric Zemmour d'imbécile. Bon, parce que cette personne...
Vous non plus, n'insultez pas non plus les gens.
Non, mais je n'insulte pas, mais c'est lui qui insulte. C'est complètement...
On m'a traité d'islamo-google après mon dernier passage sur Sud Radio.
C'est complètement scandaleux d'avoir des gens qui... Il a qu'à s'opposer aux idées d'Éric Zemmour, c'est tout à fait son droit. Il a qu'à proposer une autre vision de la France, c'est tout à fait son droit. Mais d'autres s'y sont déjà essayés, et des gens sans doute un peu plus calibrés intellectuellement que lui, et ils en sont sortis plutôt affaiblis du débat avec Éric Zemmour. Donc ce monsieur, qui en fait ne fait qu'exprimer...
Je ne suis pas très impressionné par Éric Zemmour, en tout cas.
ce monsieur qui ne fait qu'exprimer sa jalousie parce que lui...
Vous savez, contrairement à Éric Zemmour, moi, en plus de Sciences Po, je suis normalien, monsieur. Donc, vous savez, je...
Non, ce qui est vrai, c'est qu'il a beaucoup, beaucoup de défauts. Peut-être tous les défauts du monde, sauf d'être un imbécile.
Oui. Merci, Pierre, d'être Jacques, pardon, excusez-moi. Moi, je voudrais revenir quand même sur l'hypothèse, parce que je n'arrive pas à savoir. Est-ce que c'est un caillou dans la chaussure de Marine Le Pen ou pas? Parce qu'il y a les deux hypothèses qui sont là. Mehdi nous dit, non, il est là pour faire le jeu de Marine Le Pen, la rendre plus présentable. Et d'autres disent, au contraire, Éric Zemmour va perdre. Éric Zemmour va être à ce stade,
à ce stade, les deux hypothèses s'équilibrent, à mon sens. C'est en effet que Éric Zemmour permet, encore une fois, de décliver Marine Le Pen parce que il transgresse beaucoup plus alors que elle est dans un processus de banalisation ou de normalisation depuis maintenant sa prise j'allais dire du pouvoir au Rassemblement National. L'autre aspect, en faisant un peu de politique fiction, mais c'est toujours utile d'en faire dans la perspective d'une présidentielle, si tant est qu'il soit candidat et si tant est qu'il réalise un score entre 7 et 8% et que Marine Le Pen soit qualifiée au second tour de l'élection présidentielle,
c'est-à-dire
que pour Marine Le Pen, pour la première fois, ou quasiment pour la première fois, elle aura un réservoir de voix dans l'hypothèse d'un second tour. Donc de ce côté-là, ça lui est positif. Ensuite, moi je pense que je pense qu'il veut être candidat. Sauf que, est-ce que les conditions sont réunies pour qu'il le soit? Encore une fois, c'est celle qu'on a rappelée tout à l'heure, l'organisation, les signatures, etc., etc. Mais je pense que sa conviction profonde, c'est de l'être. La vérité, c'est que c'est une offre politique qui est transverse à droite. C'est-à-dire qu'il prend des voix, quand on regarde aujourd'hui le potentiel électoral d'Éric Zemmour, clairement à Marine Le Pen, mais il en prend aussi aux Républicains. Bien parce sûr. Que chez les Républicains, vous avez une demande qui n'est pas aujourd'hui remplie par les candidats, c'est-à-dire, ou peut-être par M. Ciotti, mais enfin, et encore. Une demande de droite. Wauquiez n'est pas candidat, donc Zemmour, il peut réaliser ce qu'il envisage, c'est-à-dire cette synthèse, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Je veux réaliser la synthèse entre la bourgeoisie conservatrice et les catégories populaires. Donc c'est ça l'objectif qu'il poursuit. Et de ce point de vue-là, en effet, il peut aussi handicaper Marine Le Pen.
Et j'ajoute, pour aller dans le sens de ce que dit Arnaud, j'ajoute que Zemmour, en plus, a un autre effet qui est un effet extrêmement positif et extrêmement utile pour Marine Le Pen. C'est que là où elle va être obligée, dans le cas contraire, on lui reprocherait, mais elle va être obligée de parler de thèmes qui sont des thèmes plus transverse et plus généraux, donc ce qu'on attend d'un candidat sérieux à l'élection présidentielle, pas simplement l'immigration et la sécurité. Lui peut continuer à polariser en permanence les débats autour de ces questions-là, qui sont des questions et de l'islam. Chez lui, là où elle a plus de mal, évidemment, elle peut pas en tant que candidate mainstream à l'élection présidentielle parler en permanence d'islam. Lui le fait, et qu'on le veuille ou non, ça lui permet à elle de maintenir le débat public en partie sur des thèmes qui lui sont favorables et qui sont défavorables à la gauche et à Macron.
Je voulais dire une chose, Dominique. C'est que pourquoi y a-t-il autant de nervosité autour d'une possible candidature d'Éric Zemmour? Lui-même la suscite un peu, mais là n'est pas la question. Je rejoins tout à fait, Arnaud, ce que vous avez dit comme analyse, mais vous n'avez cité que la première, sauf erreur de ma part, que aujourd'hui, les deux scénarios sont plausibles. Premier scénario, Marine Le Pen accède au second tour et peut bénéficier pour la première fois, c'est théorique, mais c'est plausible, du renfort des voix d'un candidat d'appoint qui serait non négligeable, qui serait Éric Zemmour. Deuxième scénario, je ne dis pas qu'il est plus crédible, Éric Zemmour ferait une percée telle, on n'en est pas, mais ça, il faut le dire quand même, qu'il nuirait à la candidature de Marine Le Pen, même si, comme vous l'avez dit, il mord aussi sur l'électorat LR et qu'il l'empêcherait, sait-on jamais. C'est pour ça qu'il y a une nervosité aujourd'hui. L'empêcherait d'être au second tour.
Aujourd'hui, Dominique, force est de constater, je suis plutôt à l'analyse, mais force est de constater quand même qu'aujourd'hui, le fait qu'il morde plutôt à droite contribue surtout à empêcher tout candidat de droite d'émerger face à Macron et Le Pen.
Pas faux non plus.
Ça aussi, c'est vrai.
Aujourd'hui, il a plutôt fait avorter les candidatures de droite qu'il n'a handicapé la candidature Le Pen.
C'est vrai que, je vois parmi nos auditeurs, ils sont très agacés par ce qu'ils appellent une censure d'Éric Zemmour. Sacha fait référence à l'émission de Laurent Ruquier ce week-end avec Léa Salamé, où les retours, moi je n'ai pas vu l'émission, mais tout ce que j'ai entendu, c'est que c'était d'une agressivité extrême.
Incroyable. C'était un tribunal populaire. Ouais. Mais ce qui est tout à fait anormal dans la situation,
situation actuelle, c'est de transformer. Oui. Ça sert un peu. Ça peut servir à terme ou à moyen terme, Éric Zemmour, c'est de transformer Éric Zemmour en une victime. De l'establishment.
On avait le même phénomène avec Jean-Marie Le Pen au début des années 80. Chaque fois que Jean-Marie Le Pen allait sur un plateau de télévision, il y avait un véritable tribunal médiatique aussi qui se mettait en place. Et ce qui a permis à Jean-Marie Le Pen, et d'ailleurs François Mitterrand l'a utilisé avec toute l'habileté florentine qui était la sienne, en l'occurrence, qui permettait à Jean-Marie Le Pen de progresser régulièrement au fur et à mesure des élections.
Le parallèle s'impose. Juste un petit
ajout sur cette question spécifique de l'émission de Ruquier, c'est que regardez qui était autour de la table, ce sont des gens qui ont beaucoup à se faire pardonner dans, disons, l'émergence et la création de Zemmour, ce sont en réalité les gens qui ont créé médiatiquement Zemmour. C'est-à-dire que qui l'a mis à l'antenne tous les samedis soirs pendant des années et qui aujourd'hui est quasiment obligé de s'en excuser publiquement, c'est Laurent Ruquier. Et qui
dans ce cas-là, il ne l'invite pas. C'est la schizophrénie des médias aussi. C'est-à-dire qu'on l'invite parce qu'on sait que ça va faire de l'audience. Et il y a eu un effet Zemmour.
Mais en plus, probablement, pour essayer de se faire pardonner de l'avoir invité pendant des années.
Sûrement. Elisabeth Lévy tweet, le Conseil supérieur de la censure et de la correction idéologique déclare Zemmour candidat et lui coupe le sifflet. On attend qu'il publie la liste des idées acceptables et des personnalités fréquentables ou qu'il nous dise pour qui voter. Je trouve qu'il y a quand même un éclaircissement à avoir sur le CSA et sur cette mise en demeure de...
C'est vrai qu'ils l'ont déclaré candidat.
Je pense que le CSA doit absolument s'expliquer. Par ailleurs, je n'ai aucune information particulière ou personnelle, mais dans ce dont il s'agit, il y a la réponse que doit faire la chaîne CNews, qui est quand même interpellée, qui aurait des conséquences extrêmement sérieuses si elle n'avait pas obéi aux objurgations. Je vais dire ça comme ça, aux objurgations du CSA. Il y a par ailleurs, distinguons-le, même si en apparence c'est lié, la réponse d'Éric Zemmour, qui a dit « je m'incline, il ne peut pas faire autrement et je suis très amer ». C'est en gros ce qu'il a dit ce matin. C'est une affaire complexe. Le CSA doit absolument...
CNews regrette également le communiqué de presse de CNews.
Il le regrette.
CNews est assez clair.
On considère
que c'est sur la pression qu'ils sont obligés de se séparer. Contraints. Voilà.
Arnaud, c'est évidemment sous la pression. Mm-hmm. Mais CNews risquait... Mais j'arrête, on n'est pas là pour parler CNews, mais risquait des conséquences importantes.
Oui, mais Dominique, il y a quand même des règles communes. Enfin, pardon, Zemmour est plutôt un candidat qui est attaché à l'autorité et au retour de la force publique, mais enfin, pardon, il est quand même soumis à l'autorité, il est soumis aux règles communes.
Mais quelles règles ? Il n'est pas candidat.
Moi, je suis d'accord s'il se déclare candidat.
Bien sûr qu'il y a des règles communes, mais elles ne sont pas
fixées. On sait très bien, par exemple, que pour des gens qui, y compris, déclarent leur candidature un peu plus tard, par exemple, les comptes de campagne commencent un an avant l'élection et qu'on considère que les dépenses de campagne commencent à des dates qui sont parfois antérieures à des déclarations de candidature. Là, quand même, tout dit qu'il va être candidat, il suffit à lui de dire qu'il n'est pas candidat.
C'est dans 7 mois.
Si c'est simple, le CSA n'a qu'à s'expliquer. Le CSA a mis le trouble dans les têtes.
Non, mais moi, je voudrais
chez
juste
les pro-Zemmour comme chez les anti-Zemmour.
L'étape d'après, c'est quoi ? C'est que, par exemple, il a des dépenses illimitées. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer, par exemple, que là, il a des dépenses illimitées. Il n'y a pas de plafond de dépenses. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut afficher sa tête absolument partout avec des millions d'euros et déverser des millions d'euros sur sa campagne contrairement aux autres candidats, simplement parce qu'il n'a pas dit formellement qu'il était candidat. Il y a des règles communes. Zemmour y est soumis. Il n'y a pas de candidat hors des règles communes. Enfin, tout ça est absurde.
Effectivement. Et alors ce soir, je vois ça, c'est Christine Kelly va recevoir Éric Zemmour sur CNews à 19h.
Ça va être, c'est l'audience, je raconte.
C'est la dernière.
L'invité Éric Zemmour, donc ce soir, effectivement, ça va
au
être une...
de l'invité.
Je pense que l'audience va être assurée. Ouais.
Absolument. Merci. On se retrouve dans un instant, on n'a pas fini. On va parler quand même d'Anne Hidalgo. Qu'avez-vous pensé de sa déclaration ? Est-ce qu'elle a une chance ? À tout de suite.
Sud Radio 10h midi.
Et pour le président,
beaucoup de questions autour des temps de parole. Il nous dit dans les chroniqueurs, il y a des encartés politiques, même s'ils ne sont pas candidats, ils font la promotion de leurs représentants. Hypocrisie quand tu nous tiens. Et Juliette, qui travaille avec moi, me précise que toutes les semaines, nous envoyons au CSA le décompte du temps de parole quand quelqu'un appartient à un parti politique, même un chroniqueur qui est encarté ou qui appartient à un parti politique. Nous décomptons ce temps de parole. Et d'ailleurs, je signale que Sud Radio fait partie des radios qui qui avons le temps de parole le plus équilibré entre les différentes différents partis. Mais tout est compté, même la parole d'Emmanuel Macron quand il s'exprime il s'est décompté quand il s'exprime en tant que candidat ou même
ce qui n'est pas encore le cas. Non. Alors on pourrait imaginer qu'il va être candidat, excusez-moi, si c'est le même raisonnement.
Non, mais c'est vrai.
S'il y a des gens qui pensent que Macron ne se représente pas, qu'ils le disent.
Il faut que vous sachiez qu'on envoie au CSA toutes les semaines, mais il y a quelque chose de tellement archaïque avec les réseaux sociaux.
C'est artificiel, surtout.
De tellement archaïque, évidemment. Plus qu'artificiel, avec les réseaux sociaux.
C'est archaïque. Législation totalement obsolète, mais à
obsolète.
Mon sens. Ah ouais, complètement.
Je ne voudrais pas mélanger deux thèmes, mais il y a deux institutions fragiles qui posent question. Je la mentionne d'un mot, la Cour de justice de la République. La Cour de justice. On aimerait que les juges montrent leur visage et s'expliquent. Et là, mais restons sur notre sujet d'aujourd'hui. Oui. Il est clair que le CSA, on aimerait voir des visages et on aimerait voir des éclairages. Je ne dis pas des explications, on aurait l'air de les sommer à notre tour. Mais on aimerait... Je répète que... pour simplifier caricaturement, les pro-Zemmour comme les anti-Zemmour sont un peu partagent le même embarras, la même gêne, le même malaise devant la décision qui est tombée.
Mais pas du tout, ce n'est pas vrai, Dominique, pardon.
Enfin, disons qu'on...
Non, mais je veux bien que vous soyez devenu le porte-parole des anti-Zemmour, mais enfin, pas du tout. Je crois...
Anti-Zemmour que de quoi que ce soit.
Non, mais pardon. Je suis quand même...
J'ai pas voulu vous mettre en cause, hein.
Non, mais on fait preuve quand même de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gentillesse envers quelqu'un qui, par ailleurs, a été condamné à plusieurs reprises pour les propos qu'il a tenus à l'antenne, pour quelqu'un qui,
certes,
est un client de la télévision. C'est un bon client de télévision et c'est un très bon animateur de télévision. Eh bien, il découvre ce que c'est que la politique, la vraie politique. Voilà,
c'est avec pas de la vraie politique, règles, c'est la mayonnaise politique.
Non, mais pas du tout. Ça s'appelle des règles de financement. C'est ce qui fait, en fait, que le représentant du parti de Jean Lassalle, tout à l'heure, l'a très bien dit. C'est ce qui fait que, quand même, on préserve un semblant de démocratie dans notre pays. C'est que des formations politiques...
Plus qu'un semblant de démocratie, une vraie démocratie.
Oui, ça, alors là...
Oui, mais pardon, mais enfin, excusez-moi. Allez expliquer, quand même, à des gens qui sont des militants politiques depuis des années, de l'extrême-gauche à l'extrême-droite. Voilà, donc comme ça, au moins, il n'y a pas de parti pris. Allez leur expliquer que, depuis des années, ils doivent respecter les règles du CSA et que notamment pour ces raisons-là, ils sont très peu invités dans les médias, ils ont très peu accès aux médias, etc. Allez leur expliquer ça et leur expliquer qu'en fait, le pauvre Éric Zemmour, qui était par ailleurs rémunéré pour la chose, etc., doit aujourd'hui laisser son fauteuil sur CNews parce qu'il faut un peu de pluralisme. Eh bien non, désolé, moi je préfère le pluralisme qui est pratiqué sur Sud Radio, où effectivement toutes les familles politiques sont représentées, toutes les opinions politiques, plutôt que d'avoir...
Attendez, on n'est pas en train de parler de CNews ici à Sud Radio, mais au passage, il n'y a pas que Zemmour sur CNews.
Il
y a un moment, ça devient...
Je ne vois pas pourquoi il aurait droit à un traitement dérogatoire.
Mais non.
Mais CNews est soumis aux mêmes règles que la radio, ils sont obligés de respecter les temps de parole. Mais oui, mais il n'est pas candidat, factuellement. Il n'est pas candidat, donc vous pouvez dire tout ce que vous voulez.
J'ai envie d'évoquer une hypothèse. Zemmour, dans quelques temps, nous annonçait que finalement tout bien pesait, pour de bonnes et de mauvaises raisons, il n'est pas candidat. Est-ce que le CSA, dans sa dignité et sa majesté, surgira devant les micros en présentant ses excuses à Zemmour?
Repentance pour le CSA.
Il nous reste peu de temps pour parler de la candidature d'Anne Hidalgo.
Mais ça suffira quand même.
Sur la forme, vous en avez pensé quoi, vous qui êtes un analyste de la communication, elle avait l'air très stressée.
On voyait bien les symboles qu'elle voulait manier, se déparisianiser en annonçant sa candidature depuis Rouen, qui est une ville de culture industrielle et plutôt populaire. Elle a tenu un discours où elle a essayé de réactiver un peu les fondamentaux de la social-démocratie en insistant beaucoup sur la question d'égalité sociale, plus que sur l'égalité sociétale. Ensuite, qu'en penser, tout ça est poussif pour l'instant en la matière, parce que la vérité, c'est que la gauche, ce que je dis là, n'a aucune originalité, est totalement fractionnée, qu'il n'y a pas aujourd'hui une force dominante à gauche et hégémonique comme du temps où le PS était largement dominant dans ces coins de l'échiquier politique, et que elle a le soutien des grands-mères du PS, pour la plupart. Hein,
des grands-mères, M-A-I-R-E, pas des grands-mères.
Oui, excusez-moi, oui, des grands élus, des grands édiles municipaux, à la fois de Montpellier jusqu'à Lille. Est-ce que ça sera suffisant ? C'est suffisant, en tout cas, vraisemblablement, pour crédibiliser au sein de l'appareil socialiste, aujourd'hui, sa candidature.
Oui, voilà. Mehdi, vous avez pensé quoi ?
Bon, moi, je crois que le sujet n'est pas ça, Hidalgo. Le sujet, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une candidature supplémentaire chaque jour. Ça ne s'appelle pas des candidatures, ça s'appelle un suicide organisé. C'est-à-dire que là, on est au niveau de l'ordre du temple solaire avec une suicide collectif de la gauche.
Ah bah ça va, vous ne mangez pas vos mots non plus.
Avec quelque chose qui nous fait rire, mais qui en même temps est un peu désespérant, je trouve, pour le peuple de gauche et plus généralement pour la gauche écologiste. C'est-à-dire que quand même, moi je crois que pour en revenir à quelque chose un peu plus analytique, je crois qu'il y a quelque chose de terrible dans la distance entre les mots et les actes. Et je crois que des gens qui nous parlent à longueur de journée d'unité, mais qui ont 10 000 candidats, des gens qui nous parlent à longueur de journée de féminisme, mais où la plupart des candidats quand même sont plutôt des hommes, quinca, sexa, septuagénaire pour Mélenchon, blanc, des gens qui nous parlent à longueur du temps de réunions non mixtes, plutôt de solutions communautaristes, etc. Et qui eux-mêmes, quand on regarde, ont des équipes qui sont d'une blanchité absolue. C'est comme la rédaction de Libération, c'est quand même des gens qui sont systématiquement en contradiction entre leurs mots et leurs actes. Et donc, c'est quand même, je trouve que pour la population française, c'est quand même désespérant d'avoir une gauche qui est systématiquement en désaccord avec ce qu'elle raconte et en désaccord avec ce qu'elle propose.
Sophie ne pourra pas s'exprimer, c'est de la censure. Mais je vois deux tweets. Sacha qui nous dit, vu de la province, Madame Hidalgo n'est déjà pas la bienvenue dans sa ville. De là à représenter le pays, je ne le crois pas et je ne le souhaite pas. Et puis Xavier également qui nous dit, c'est pas pour les bouseux comme nous. Seuls les bobos écolos parisiens voteront pour Anne Hidalgo. Nous, les bouseux de province, non. Et puis pour conclure cette matinée formidable, on apprend que Jean-Michel Blanquer sera chez Cyril Hanouna ce soir. Voilà, très bonne journée à tous. Dans un instant, André Bercoff, on se retrouve demain. Non.